Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et on se retrouve dans un tout petit instant, évidemment, encore une émission qui sera consacrée à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Halal, Kacher, êtes-vous choqué par les rayons communautaires dans les supermarchés? Faut-il bannir le voile dans l'espace public? C'est l'une des questions qui est posée également. On va revenir également sur le ressenti des enseignants. Sont-ils seuls, abandonnés par leur hiérarchie? On va en parler avec vous dans un instant. 0826 300 300. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi.
Voilà. Ouais. Jean-Luc Mélenchon a été autrefois un républicain, un laïcard. Aujourd'hui, il incarne effectivement quelque chose de différent. Il s'est fourvoyé dans la manifestation du 10 novembre. Ouais. Je suis d'accord avec vous là-dessus, en étant peut-être dans ma terminologie un peu plus modérée, voilà. Moins nuancée. Mais sur le fond, c'est vrai, on ne peut pas être à la fois Charlie et Obono.
La réalité, c'est qu'il est complètement paumé. Il doit annoncer sa candidature à l'élection présidentielle dans les jours qui viennent, maximum début novembre. Bonne chance, il ne peut pas espérer faire l'unité des gauches, mais il n'est même pas sûr qu'il puisse faire l'unité de son propre parti, c'est dire.
Allez, moi j'avais un coup de gueule à propos de l'Observatoire de la laïcité. Ce machin qui, déjà, ce nom d'Observatoire de la laïcité veut bien dire comment la République envisageait la laïcité, c'est-à-dire qu'on l'observe, donc présidé par Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne. Je rappelle quand même qu'il y avait un livret sur l'école qui était sorti, dans lequel il était écrit que dans les disciplines scientifiques, SVT, physique, chimie, etc., il est essentiel de refuser d'établir une supériorité de l'un sur l'autre, comme de les mettre à égalité. Je rappelle qu'il y a 24 personnes qui participent, qui ne sont pas payées, 24 personnes dont on n'a jamais entendu parler. On entend Nicolas Cadenne, on entend Jean-Louis Bianco, dont Dounia Bouzard. Je rappelle que Dounia Bouzard a monté une sorte de formation pour déradicalisation, qu'elle n'a jamais déradicalisé personne, qu'elle a reçu 1 million d'euros pour cela. Et puis surtout, c'est-à-dire que ces gens, que ce soit Jean-Louis Bianco ou Nicolas Cadenne, bloquent tous les laïcs, et qu'aujourd'hui, le soutien de l'Observatoire de la laïcité, c'est Tahar Bouaf, c'est Marwan Mohamad, c'est-à-dire l'ancien patron du CCIF, c'est Adrien Taché, c'est Rosa Méziane. Je rappelle qu'elle a soutenu une mosquée, la mosquée de Mitri Mori, en faisant un appel au don pour une mosquée pour le moins étonnante. Ce sont ces gens qui, aujourd'hui, sont les soutiens de l'Observatoire de la laïcité. Donc, je crois savoir, ça a été dit, que Jean-Louis Bianco allait recevoir à Matignon, recevoir Jean-Louis Bianco. Je pense que les têtes vont changer, mais qu'on ait toléré ça pendant des années et c'est pas faute d'avoir alerté des gens comme Caroline Fourest et des gens comme elle qui ont prévenu que cet observatoire ne servait à rien, prenait en général la défense non pas des laïcs mais de gens qui s'estimaient victimes et stigmatisés. Et j'en veux pour preuve, hier encore, une bagarre près du Champ de Mars. Et il y a eu une exploitation qui a été faite par le CCIF de cette bagarre en disant agression contre des musulmans. C'était une bagarre entre femmes parce qu'il y a un chien qui n'avait pas de muselière. Donc cette victimisation qui a été soutenue par l'Observatoire de la laïcité. Pardon d'avoir été un peu longue, mais je trouve que ça exprime bien dans quel état aujourd'hui est la démocratie et la République française.
Je partage totalement, Valérie, votre analyse. Elle est forte et pertinente. J'espère que des changements vont avoir lieu aujourd'hui à l'initiative du Premier ministre. Il est largement temps. Pour avoir connu Jean-Louis Bianco à l'époque où il était secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, je suis sidéré, mais ça ne date pas de 2 heures ni de 15 jours. Je suis sidéré de son évolution, extrêmement préoccupante. J'ajoute que ça prouve, s'il était nécessaire, que derrière l'invocation de la laïcité ou l'agitation du drapeau de la laïcité peuvent se confronter des approches de la laïcité totalement contradictoires et absolument pas compatibles. C'est sidérant. C'est sidérant, ouais. Et c'est au bout du compte, même si j'ai longtemps cru qu'il retrouverait, si j'ose dire, le droit chemin laïque. Je trouve ça à la fois un gâchis et au total du total un scandale.
Oui, Romain Colas, cet observatoire de la laïcité, vous en aviez entendu parler, vous en pensez quoi ?
Oui, évidemment, puisque c'est une, je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs, je ne sais pas s'il a le statut d'autorité administrative indépendante ou s'il s'agit d'un machin. C'est un machin. Ben, c'est un machin qui a pu avoir son utilité à un moment pour émettre des avis et régler un certain nombre de situations dans un cadre consensuel. C'est en tout cas sa vocation. À l'heure où je vous parle, j'ai pas le sentiment, et les expressions sur votre plateau le traduisent, que cet observatoire, dans sa composition actuelle, soit même de créer le consensus. Et donc, non. Il y a sans doute à réfléchir à son avenir, à sa composition.
Oui. Alors, on va passer nos sujets. Je vous propose de réécouter, d'écouter ce que disait Gérald Darmanin hier soir. Il était sur BFM. Ça fait évidemment beaucoup réagir, le ministre de l'Intérieur, qui évoquait le communautarisme. Alors, écoutez le son.
Qu'on aille dans un hypermarché cachère ou halal pour acheter des produits, chacun peut le faire. Où est le problème? Je dis juste que des grandes entreprises françaises qui ont organisé parfois, on va dire, le marketing direct, on va dire ça comme ça. À mon avis, ils n'ont pas parlé à un type de population parce qu'ils avaient envie d'offrir à cette population telle ou telle consommation tout à fait respectable, mais parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent sur le communautarisme. Et moi, personnellement, ça me choque.
Oui, et il a ajouté, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y a un rayon de telle cuisine communautaire. C'est comme ça que commence le communautarisme. Alors il a été, alors il a précisé, toutes mes opinions ne font pas partie des lois de la République, c'est mon avis, mais c'est vrai que ça a été beaucoup commenté. Est-ce qu'il a eu raison de dire cela? Je ne sais pas qui veut, Geneviève Göttinger.
Écoutez, moi, sur ce point, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, en fait.
Est-ce que ça commence pas par là? Est-ce que nous, ce qu'on dit depuis le début de la semaine, c'est que la situation à laquelle on arrive n'a été faite que de petits renoncements?
Mais est-ce que ça, c'est vraiment un renoncement? Est-ce que là, on n'est pas en train de gesticuler? Est-ce que ça... Franchement, on a l'impression que le sentiment aujourd'hui, c'est que le gouvernement veut enfin s'attaquer au problème. D'accord? Mais est-ce qu'il faut s'y attaquer par ce biais? Est-ce qu'on accepte dans ce cas-là les supermarchés communautaires? Est-ce qu'il vaut mieux se retrouver dans un univers complètement communautarisé avec un supermarché halal, cachère, tout ce que vous voulez? Ou est-ce que... Enfin, je ne vois pas en quoi les rayons halal ou cachère mettent à mal la laïcité, mettent à mal le vivre ensemble. Moi, j'ai toujours eu dans mon supermarché, dans mon Monoprix, avenue de l'Opéra, un rayon cachère, ça m'a jamais choqué, quoi. Ça n'a jamais été un problème. Voilà.
Oui. Kevin Bossuet.
Non, mais là, je crois qu'on n'est pas seulement dans quelques rayons. Je veux dire, il suffit d'aller dans les supermarchés, notamment de Seine-Saint-Denis ou de la banlieue parisienne, pour voir que c'est carrément parfois un bon quart du magasin qui a notamment ces rayons spécialisés en halal. Et la vérité, c'est quoi? C'est que le halal, c'est un vecteur identitaire et communautaire de l'islam politique. Je veux dire, il y a une anthropologue qui est Florence Blangeau-Blaclair qui a très bien montré notamment que le halal n'était pas une obligation religieuse. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti en 2010 qui a montré qu'il y avait seulement 59% des musulmans en France qui consommaient halal. C'est bien la preuve, en effet, que ce n'est pas une obligation religieuse. La vérité, c'est que le halal, ça vient d'où? Le halal, ça vient notamment des pays arabes, ça vient notamment de l'Iran. Et le but, évidemment, c'était d'accompagner cet entrisme de l'islam politique au sein des sociétés occidentales. Et ce qu'il y a d'inquiétant, et c'est ce que dit d'ailleurs le politologue Gilles Kepel, il dit clairement qu'il y a une volonté de pureté à travers notamment le halal. Le but, c'est quoi? C'est de séparer l'impur qui correspond notamment à la nourriture occidentale et de l'autre, de séparer le pur notamment qui correspondrait à la nourriture jugée comme conforme au Coran. Et d'ailleurs, la première association qui a voulu imposer en France une certification rigoureuse autour du halal, c'est À Votre Service, qui est directement issu des Frères musulmans et du cercle de Tariq Ramadan. Donc à un moment, il faut dire la vérité, le halal, c'est quelque chose qui est communautaire,
Et c'est le symbole... Est-ce que vous tolérez les supermarchés halal dans ce cas-là?
Mais c'est pas que je tolère ou pas les supermarchés halal.
Est-ce qu'on interdit dans ce cas-là le halal dans ce pays? Où sont le raisonnement jusqu'au bout?
Si vous voulez, ce qui me pose problème, c'est quand vous avez par exemple certains supermarchés, je pense au supermarché Carrefour, qui fait tout un catalogue aux saveurs, notamment du Ramadan. Moi, ça me pose quand même un petit problème quand sur certains territoires, en effet, on axe la communication commerciale que vers certains. Parce qu'il n'y a pas que des musulmans sur ces territoires.
Dominique.
Alors j'ai écouté hier soir Gérald Darmanin, c'était ce site sur BFM.
Oui, sur BFM, ouais.
Globalement, je l'ai trouvé, ce n'a pas surpris, je l'ai trouvé très bon. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, très bon. C'est des choses graves, donc ça ne relève pas d'une note d'école, si je puis me permettre. Donc j'ai tort de l'exprimer comme ça, mais enfin je l'ai trouvé pertinent et fort. Mais là, j'avoue que j'ai été... c'est le seul moment où j'ai été perplexe. Alors, je me contente d'un argument. Il semble aujourd'hui, à mon avis, c'est pas totalement acquis, qu'un grand basculement est en train de se produire. Ceux qui étaient jusqu'ici minoritaires et parfois persécutés dans la dénonciation de l'islam politique et de ses conséquences, ceux-là sont en train de s'apercevoir que viennent à eux aujourd'hui, avec retard, lentement, mais fortement, toute une série de Français, politiques ou associatifs, qui sont en train de... En retard, ouais. D'accord, ils le disent, en retard. Mais attention, d'une part, c'est pas encore totalement exact. L'idée que toute la France a basculé après l'assassinat abominable de M. Paty dans la dénonciation de l'islam politique, c'est cette idée, si certains la croient exacte, elle est naïve. Ouais. Il y a encore du chemin à faire. Il y a quelque chose qui s'est produit, mais il y a encore du chemin à faire. Et puis d'autre part, la deuxième raison pour laquelle je suis réticent, surpris et au total réticent devant les propos sur ce point précis du ministre de l'Intérieur, c'est que en gros, il n'est pas interdit, de mon point de vue, alors que mon voisin ne prenne pas ça pour lui, mais il n'est pas interdit, il répondra, et il n'est pas interdit d'être un peu tactique. On ne peut pas, du jour au lendemain, supposer que l'objectif soit d'en finir, ou en tout cas de réduire la place de ces stands-là et de ces parties de magasins consacrées à l'alimentation communautaire, etc. Ouais. À supposer que ce soit l'objectif. Attendez, on ne va pas se mettre sur le dos parce qu'on n'en a pas les moyens, nous les Républicains. On ne va pas se mettre sur le dos du jour au lendemain de prendre de face des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont absolument pas en tête ce que nous analysons et ce que nous disons de leurs arrière-pensées ou des arrière-pensées de ceux qui les mettent sur cette voie-là. Donc, un peu de subtilité et de progressivité dans la fermeté globale.
Romain Colas.
Alors sur le sujet sur lequel vous nous interrogiez, qui est la sortie du ministre de l'Intérieur sur les rayons qualifiés de communautaires, moi je suis en total accord avec ce qu'a dit Geneviève Kottinger. Ça relève pour moi de la pure gesticulation. Ça n'a strictement aucun sens. Enfin, si le problème de l'islam politique dans ce pays c'était les rayons halal, d'une certaine façon ça se saurait. Mais... et puis demain on supprime les galettes des rois. Et puis,
personne,
aussi les rayons cachers et puis les rayons asiatiques, j'en serais le premier déçu parce que moi j'adore me faire de la cuisine avec de la sauce soja.
C'est pas donc, exactement ça, la même
aussi,
chose.
Moi aussi, moi aussi.
Mais c'est pas. Pardon, Romain, c'est pas exactement la même chose. Alors, je pense qu'il est. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas la même chose. On parle pas de la même chose.
Mais on parle quoi? Du cachère et du halal?
Oui, je veux dire, la bouffe asiatique et la bouffe, la nourriture et les produits.
Oui, je suis d'accord que sur le kasher comme sur le halal, il y a une notion de religieux qui peut être introduite, qui n'est pas forcément le cas de la.
C'est qui est introduite.
Voilà, mais franchement, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le sujet? Et pour rebondir sur les propos de Kevin Bossuet, moi je ne crois pas qu'il m'appartient, comme il n'appartient pas à lui, de définir ce qui relève de la pratique de l'islam. Je ne suis pas sûr que lui et moi, on soit des spécialistes de l'islam. Je ne suis pas certain qu'on soit des théologues. Et moi, je connais plein de gens qui se nourrissent ou cachés ou halal, qui n'ont rien à voir avec des communautaristes, qui n'ont rien à voir avec des tenants de l'islam politique. Et est-ce qu'il faut qu'on dise à ces gens-là, on va vous dire comment manger, parce qu'il y a des abrutis, des fascisants,
ce que vous dites est hallucinant. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'à partir du moment où on évoque certaines idées qui sont en faveur de la laïcité, vous êtes en train de les traiter de fascistes.
C'est ce que vous êtes en train de faire.
Non, il parle des fascistes. Il parlait des fascistes islamistes. Valérie, c'est l'inverse. C'est l'inverse.
Ceux que je traite de fascistes, ce sont les islamistes.
Oui, oui.
Vous m'avez tout mal compris.
D'accord, pardon.
Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et moi, vous savez que depuis toujours, j'ai combattu l'islam politique et que pour le coup, j'ai la laïcité chevillée au corps. Mais la laïcité, c'est le droit de la société à s'organiser en dehors du religieux. Ça n'est pas la négation du faire religieux. Voilà. Et il faut qu'on fasse preuve, sauf à nous-mêmes entrer dans le jeu dans lequel veulent nous mettre les terroristes, il faut qu'on fasse preuve d'un peu de nuance. Mmh. Voilà. Et le problème, ce n'est pas les rayons halal ou cachère dans les magasins. Il faut quand même pas exagérer. J'en termine juste pour répondre à Céline Bossuet, qui a effectivement un sujet. Moi-même, je suis choqué quand je rentre dans certaines surfaces commerciales de voir la part qu'a pu prendre le halal, mais il faut s'interroger sur les raisons. Il y a évidemment des raisons de marketing pour les groupes qui proposent cela, mais ça veut dire que dans le bassin proche du centre commercial en question, on a concentré un certain type de population. Oui, c'est aussi un sujet qui aboutit au communautarisme. Oui. Et si on veut parler, des problèmes auxquels est confronté notre pays en matière de communautarisme, il faut qu'on aborde aussi cette question de l'absence de mixité dans des secteurs entiers de notre République.
On va y revenir on va y revenir tout de suite. Mais la question est aussi de savoir pourquoi à la cantine il y a de la viande halal. Pourquoi dans les hôpitaux, il y a de la viande halal. Pourquoi dans certains endroits, il y a aujourd'hui de la viande halal pour des gens qui ne consomment pas de halal? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et on se retrouve dans un tout petit instant, pardon, pour parler des conséquences de cet horrible attentat de Conflans-Sainte-Honorine, de cet enseignant Samuel Paty décapité. La République semble vouloir changer d'attitude. Le Monde hier titrait sur l'épreuve de force. Étrange titre. Tout de même, nous parlerons donc des différentes propositions qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'elles sont applicables? Est-ce qu'elles sont concrètes? Le renvoi de ces 231 islamistes, enfin en tout cas fichés S. Et puis la dissolution de deux associations. On a vu ce matin que le patron de Baraka City a dit qu'il ne se laisserait pas faire. Donc les recours sont nombreux. On en parle dans un instant avec vous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter, débattre avec aujourd'hui Dominique de Montvallon, journaliste politique, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis et Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Nous parlions donc des propos, nous revenions sur les propos du ministre de l'Intérieur hier qui disait qu'il était gêné par les produits communautaires dans les supermarchés. On va parler également de ce que souhaiterait François Fillon, que ne l'a-t-il fait avant, d'interdire le voile dans l'espace public, contrairement à ce qu'a dit en tout cas Marlène Schiappa hier. Et puis on va évidemment parler de ces enseignants qui sont très très seuls face à cette montée de l'islamisme, de l'islam politique et du communautarisme. On avait une auditrice qui souhaitait réagir sur notre précédent débat, c'est Karine de Levallois. Bonjour Karine.
Oui, bonjour. Bonjour à tous et merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Je vais essayer de vous parler franchement et sachez que j'apprécie énormément vos émissions et que je sais que vous essayez de faire la part des choses. Mais, et vous l'avez d'ailleurs répété justement dans le débat précédent, il faut faire la part des choses. Eh bien, écoutez, j'aimerais que vous fassiez cette part des choses entre kasher, halal, communauté juive et communauté musulmane. Je suis désolée de le dire, mais en entête de votre émission, vous avez commencé comme ça. Vous avez dit produit kasher, halal.
Je suis d'accord avec vous.
Non, mais madame, excusez-moi, et encore une fois, ça n'est et je n'essaye pas du tout de faire justement une particularité. Je voudrais quand même que les gens prennent conscience du facteur qualitatif et quantitatif et le fait que la communauté juive n'a jamais eu ce type de revendication. Il n'y a pas de prosélytisme. D'ailleurs, quand vous parlez des problèmes, jamais, je veux dire, les communautés juives n'ont imposé du kasher dans les cantines. Jamais, je veux dire. D'ailleurs, reprenez juste les éléments démographique. Vous savez, est-ce que vous savez combien il y a de juifs actuellement en France? Parce qu'à chaque fois, vous dites les plus grandes communautés. Absolument. Il y en a à peine 500 000. C'est quoi? C'est 0,7% de la population. Ouais. Alors, je sais qu'on n'est pas supposé faire ce type de statistiques, mais savez-vous combien il y a de musulmans en France? Pensez-vous que dans les à peine 500 000 juifs qu'il y a en France, combien de personnes sont vraiment religieuses et mangent kasher? Vous croyez que c'est un marché intéressant? Parce que je vais vous parler sous cet angle-là. D'accord? Donc, et nous ne faisons pas de prosélytisme. Il y a quelqu'un qui est très spécialisé là-dedans qui s'appelle Karim Zerebi, qui apparaît sur plein de plateaux télévisés et qui adore faire ce type de parallèle. Et pourquoi le faites-vous? Est-ce que c'est par paresse intellectuelle ou juste pour juste avoir le bon argument de dire, voyez, nous, on n'a pas stigmatisé les uns plus que les autres. On a mis les Juifs et les Arabes en même temps, et comme ça, dire tout est équilibré. Eh bien, écoutez, madame, moi, je ne vais pas vous parler de mon histoire familiale personnelle, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais je vais vous dire, mon père, il a été déporté pendant 3 ans dans un camp d'extermination. Ma mère, elle était née en Algérie française, donc française, elle a été mise à la porte de l'école sous le régime Vichy. Moi, je suis née en France, je suis première génération française. Est-ce que vous croyez qu'on a été chercher des excuses, madame? Est-ce que c'est parce que mon père ne parlait pas français que je n'ai pas été à l'école et que je n'ai pas suivi les cours et que j'ai dit non, pas ça et pas ça? Non, on a baissé la tête, on a bossé, point final. Et aujourd'hui, il y a des générations et des générations de gens qui sont des républicains, qui sont des citoyens français et qui ont tout fait pour contribuer à ce pays. Alors, s'il vous plaît, et je suis désolée de faire aujourd'hui ce discours, mais arrêtez de nous mettre en équivalence. Et j'en veux à Gérald Darmanin, je terminerai là-dessus. Ouais. D'avoir justement, encore une fois, parce que les politiques depuis des décennies et les journalistes, sauf que maintenant il semble qu'ils se réveillent, c'est très bien, mais les politiques et les journalistes n'ont pas arrêté de faire ça, de mettre ces deux communautés en équivalence, alors que les discours et les revendications n'ont jamais été les mêmes. Il n'y a jamais eu de discours vindicatif, ni de victimisation, de concours de victimisation.
Karine, j'entends, mais vous avez raison, je vous donne raison sur toute la ligne, et je l'ai même dit quand on avait eu un échange. Si vous avez écouté avec Romain Colas, parce qu'il dit si, Romain, vous disiez si les produits asiatiques, etc., devaient disparaître, c'est pas la question et ça n'a rien à voir. Et c'est ce que j'ai dit, pardon Karine, et effectivement, je regrette d'avoir dit halal kasher, êtes-vous choqué par les rayons communautaires dans les supermarchés, parce qu'on parle évidemment du halal, et je crois que vous vouliez réagir, oui. Kevin, et qu'on ne peut pas mettre tout ça sur le même plan, évidemment.
Mais je suis parfaitement d'accord avec ça. Je veux dire, tous ces gens qui en ce moment mettent les religions sur un même piédestal n'ont rien compris. Aujourd'hui en France, on n'a pas un problème avec le christianisme, on n'a pas un problème avec le judaïsme, on a un problème avec l'islam. Donc à un moment, il faut dire les choses. Ce n'est pas stigmatiser une partie de nos compatriotes, c'est simplement de dire les choses parce qu'elles sont justes.
On a un problème avec l'islam politique. On a un problème avec l'islamisme.
D'accord, l'islam politique.
On a un problème avec la communauté musulmane.
Non, mais je suis d'accord avec vous parce qu'il y a des véritables problèmes. On parlait du halal, mais le halal, qu'est-ce que c'est? C'est une revendication communautaire où vous avez des petits musulmans qui s'en prennent à d'autres petits musulmans parce qu'ils ne mangent pas halal. Il y a aussi le problème avec les bonbons à la gélatine de porc. Ouais. Il y a à chaque fois du harcèlement parce qu'il y a des petits musulmans qui mangent des bonbons avec de la gélatine de porc et ceux qui sont dans la religion pure, forcément, vont rejeter ces gamins. Il y a différents rapports qui sont sortis, le rapport Aubin notamment, qui nous a montré que dans les cantines, il y avait une séparation entre ceux qui mangeaient halal et ceux qui ne mangeaient pas halal. Donc moi, je veux bien que ça soit un débat secondaire, mais c'est la réalité, c'est le concret de ce qui se passe, notamment dans certaines banlieues. Donc le halal, lui, c'est un instrument au service de l'islam politique. Il faut le dire et le redire parce que si on ne le dit pas, on donne raison à tous ces gens.
Il y a une démographie qu'il faut prendre en compte, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Romain Colas. Mais effectivement, quand on observe, quand on fait ses courses, etc., on voit que le rayon kasher, pour donner raison à Karine, il n'a rien à voir avec la semaine du Ramadan, etc., qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, et il faut le préciser, que ceux qui mangent halal ou les musulmans sont des islamistes, c'est évidemment pas du tout la question. Dominique, et puis après Romain.
Non, juste un mot pour dire, parce que c'est très important ce qu'a dit l'auditrice. Alors, je le dis bêtement, très simplement, je suis en total accord avec ce qu'elle a dit. Mais je dirais même, parce qu'elle s'est exprimée, cette auditrice, avec beaucoup de sobriété, derrière l'émotion qu'on devinait, qu'il y avait quelque chose. Elle est de facto la porte-parole de beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Et il y avait quelque chose de bouleversant dans ce qu'elle a dit, hein, dans la sobriété qu'elle a choisi d'adopter. Alors, je suis très heureux, toujours d'être votre invité, mais spécialement aujourd'hui d'être votre invité pour entendre une intervention de ce type.
Oui, merci Karine. Vous voulez réagir, Romain Colas?
Je voulais réagir à ce qu'a dit l'auditrice sur le fait que les islamistes politiques imposaient dans les cantines le halal. La vérité, c'est qu'ils n'en ont absolument pas les moyens. Et que si le halal fait son entrée dans les cantines, c'est parce qu'il y a des élus qui cèdent. C'est parce que des élus cèdent. Et si une dénonciation doit être portée aujourd'hui, c'est sur ceux qui le revendiquent et sur ceux qui cèdent à ces revendications. Et là, c'est un maire qui vous parle. Moi, je n'ai pas particulièrement de problématique de communautarisme, même si j'ai appris à être particulièrement vigilant sur ces sujets. Mais n'ayant pas de communauté organisée sur le territoire de ma commune, j'ai été confronté parfois à des revendications. J'ai été confronté à des parents qui me demandaient, par exemple, nous on sert à l'assiette dans nos restaurants scolaires dans ma commune. Et quand l'assiette arrive devant l'enfant qui fréquente la cantine scolaire de l'école de la République et de ma commune, qui est une institution républicaine, eh ben il a le légume ou le féculent et puis il a la viande. Mmh. Et puis il y a des parents qui m'avaient demandé qu'on ne serve pas de viande aux enfants. Au motif, justement, qu'elle n'était pas halal. Moi, j'ai toujours fourni la même réponse. Le travail du maire que je suis, c'est de fournir des repas équilibrés aux enfants. Voilà. J'oblige personne à manger de la viande, mais chacun a la même chose dans son assiette. Et donc, on parle de ces reculs qui font que l'islam politique avance. Le fait de céder à ce genre de revendications, c'est offrir des petits reculs. Et donc, non, les islamistes n'ont pas la capacité d'imposer le halal dans les cantines. Les élus sont en capacité de le refuser. Ils doivent avoir le courage de le refuser.
Absolument. Je voulais vous lire le tweet, le commentaire Facebook d'un de nos auditeurs qui dit « L'islam authentique, les musulmans tolérants et les vrais n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé pour Samuel ou les barbaries d'hier et à venir. Il faut revenir aux années 70. » Vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ce sont vos politiques qui enflamment les esprits et les rues. Enfin, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ce sont les terroristes qui enflamment le débat et qui font cette indignation. Il faut arriver à faire changer à vos responsables les idées rétrogrades sur l'islam. Il faut combattre l'islam politique qui fait des ravages non seulement dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde musulman, où les victimes sont musulmanes. Certes, mais c'est vrai aussi qu'il faut combattre cet islam politique et que pour l'instant, rien n'a été fait concrètement. Et c'est vrai qu'on voit les attentats se succéder sans qu'il n'y ait de choses. On peut peut-être revenir sur l'école, justement, avec vous, Kevin Bossuet, sur ces profs qui se sentent seuls. C'est pas le cas partout, mais les incidents sont là. Il y a des tensions. Ça fait des années que c'était... on rappelle le rapport Aubin, c'était 2004. C'est les territoires perdus de la République, mais qui alertaient déjà sur ce qui se passe. Mais il y a un sondage c'est une étude qui dit que 30% des enseignants disent pas de vague, il faut pas contrarier les élèves, etc. Donc est-ce qu'il y a une forme de soumission aussi de la part, ou de trouille de la part des enseignants à aborder les sujets en SVT? Enfin, il y a plein d'histoires qui courent. Est-ce que vous sentez cette pression?
Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, il y a une forme d'autocensure. Donc il y a un sondage qui est sorti récemment, qui a montré notamment que les enseignants étaient 40% à s'auto-censurer en classe et 50% dans les zones d'éducation prioritaire. Donc pourquoi il y a une auto-censure ? Tout simplement parce qu'il y a une peur. Surtout que sur ces territoires un petit peu perdus de la République, il y a des gros problèmes parfois de gestion de classe, où c'est vrai que les enseignants se font souvent malmener, voire bordéliser, donc ils ne vont pas en rajouter, notamment en mettant en avant des sujets qui sont assez compliqués. Donc il y a une forme de renoncement de la République à imposer tout simplement le programme de l'éducation nationale. Et puis après, il faut le dire aussi, il y a une forme d'idéologie chez beaucoup d'enseignants qui sont des islamo-gauchistes patentés, qui sont sans arrêt dans cette culture de l'excuse et qui sont sans arrêt en train de vouloir ramener les élèves à leurs origines ethniques, là où les vrais républicains essaient de les extraire afin de leur offrir un avenir meilleur. Et le problème aussi, il est idéologique. Donc face à ça, je trouve qu'il y a la République qui recule, parce que d'un côté, il y a la République qui n'arrive pas à imposer de la même manière partout le programme qu'elle a édifié. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'elle laisse enseigner des gens qui, parfois, vraiment, n'ont rien à faire dans une salle de classe.
Maintenant, est-ce que les enseignants sont seuls ? Et c'est vrai qu'on a du mal à voir ce qui s'est passé dans le cas de Samuel Paty. Et tout le monde est un peu sidéré de voir que la directrice a laissé rentrer un imam avec le père, qu'il y a une plainte qui a été déposée, qu'il a été entendu par les policiers, et surtout que l'inspection d'académie allait envoyer un inspecteur. Et en général, quand l'inspecteur vient, c'est pas pour vous féliciter, c'était pour rappeler, alors que comment déjà la directrice n'a pas été vérifiée que la jeune fille était vraiment dans le cours. Enfin, on a l'impression qu'il y a une terreur qui est aujourd'hui avec ces sujets.
Oui.
Alors, on a l'impression sur ce cas précis, effectivement, qu'il y a eu une accumulation de petits faits qui ont rendu ce professeur extrêmement seul face à lui-même et face...
Mais pas que lui, c'est ça le problème.
Alors, sûrement pas que lui, mais enfin, là, pour lui, ça a quand même mené jusqu'à cet événement tragique, sa mort. Enfin bon, donc c'est juste terrible. Ouais. Mais après, d'une manière plus large, effectivement... Aujourd'hui, dans l'enseignement national, il y a une très grande difficulté, vous allez sans doute le confirmer, Kevin, d'aborder un certain nombre de problèmes, qui sont la création du monde, qui sont l'évolution de l'espèce, qui sont l'éducation sexuelle, qui sont des tas de choses basiques qui sont aujourd'hui très très compliquées et face auxquelles l'enseignant se retrouve effectivement tout seul dans sa classe face à des élèves qui contestent son enseignement en réalité. Et là, bon, ben, y a un travail de reconquête républicaine à faire au sein de l'enseignement national, mais c'est très compliqué parce qu'on part de très loin. Et on part de très loin parce qu'il y a eu toutes ces démissions successives, cette peur de la stigmatisation, cette solitude face à des classes, face à la révolte d'enfants qui sont aussi chauffés peut-être à blanc dans leur famille. Et bon, ça va être très très compliqué. Je ne sais pas comment vous le vivez sur le terrain et si dans les classes vous ressentez cette difficulté au quotidien. Parler de la Shoah,
C'est très compliqué en fait. Il y a plein de sujets sur certains territoires qui sont complètement interdits. Le prof d'histoire-géographie a des grandes complications, notamment lorsqu'il évoque la Shoah, lorsqu'il évoque la naissance du judaïsme, lorsqu'il évoque notamment la guerre d'Algérie ou alors le conflit israélo-palestinien. Le professeur de sciences et vie de la Terre a de gros problèmes quand il évoque notamment l'origine du monde ou lorsqu'il évoque les cours d'éducation sexuelle, et je suis désolé, il faut qu'au collège il y ait des cours d'éducation sexuelle. Il ne s'agit évidemment pas d'apprendre les gens à avoir des relations sexuelles, il s'agit simplement de faire de la prévention. Non mais pour les parents, parfois c'est pas très clair, de faire de la prévention et d'expliquer globalement comment ça se passe. Il y a aussi des problèmes, même en mathématiques, vous vous rendez compte, ou dans le rapport Aubin, il est signalé en effet qu'il y a des enseignants qui voient des élèves refuser de faire des signes mathématiques si ces signes ressemblent à des croix chrétiennes. Il y a également quelque chose qui a été dramatique que moi j'ai lu, c'est le fameux rapport ultra confidentiel, enfin qui n'est plus confidentiel maintenant, des renseignements généraux, qui citait l'exemple à Mulhouse, où vous avez une fille qui était en CM1 ou CM2, qui venait de faire du sport, qui avait excessivement soif et qui refusait de boire parce que c'était le ramadan. La principale ou le principal a appelé le père, et le père a refusé qu'on lui donne à boire sans l'assentiment de l'imam. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Et le rapport Aubin disait quelque chose qui était très juste, c'est il parlait de théologisation de l'enseignement. Il évoquait notamment cet enseignant qui était obligé de justifier son enseignement par rapport au Coran. Voilà où on en est dans l'école de la République. La République a complètement est complètement saccagée. Et surtout, ce qui me pose problème, moi je suis très attaché au caractère national de l'éducation. Il y a des territoires sur lesquels on peut enseigner correctement les choses, il y a des territoires sur lesquels on ne peut pas enseigner correctement les choses, et on se retrouve avec un enseignement à deux vitesses et la République qui recule. Aujourd'hui, l'enseignement en France n'a plus rien de républicain.
Alors, sur ces mots, on va marquer une petite pause. 0826 300 300 si vous voulez réagir. On vous attend sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, 0826 300 300, on parle de l'enseignement, de notre enseignement, est-il encore républicain? En tout cas, vous sembliez dire que non, Kevin Bossuet, de votre expérience. Je ne sais pas qui veut réagir à ce que disait Kevin et aux exemples très concrets. Oui. Hier, je voyais, juste un mot, Renaud Pila de LCI qui disait qu'un prof lui avait confié qu'il était très inquiet sur le retour le 2 novembre, parce que ses enfants, en fait, il dit, lorsqu'un prof de collège me confie qu'il craint le temps des vacances de Toussaint pour la contextualisation de l'attentat, car certains enfants sont dans des familles où règne le « oui mais », ce sujet me semble plus à la racine que les réseaux sociaux, l'éducation. Sauf qu'effectivement, ces gamins vont être dans leur famille, et que la famille, ce qu'on a évoqué tout au long de la semaine, la famille, les réseaux, tout ce qui est autour, est parfois plus fort que ne peut être l'éducation, Dominique.
Moi, je n'ai rien à redire à ce que dit Kevin Bossuet, puisque c'est du vécu, et c'est peu de dire que
c'est très concret.
Que ça nous trouble. Je voulais dire, c'est que j'entends beaucoup dans les discussions politiques, dans les débats à la télévision ou à la radio, dans les même à l'Assemblée, j'entends des tas de discours qui s'accumulent en disant « oui, tous ces discours, c'est bien ou c'est pas mal, il était temps, etc. » Mais où sont les actes? Alors, cette question « où sont les actes ?»,« quels sont les actes ?», c'est une question hautement légitime. Je voudrais simplement dire que C'est important avant de reconstruire un corpus commun, pardon de ce vocabulaire un peu théorique, mais j'allais dire idéologique. Enfin, qu'est-ce que nous croyons, nous, Français ? Qu'est-ce que nous défendons, nous, Français ? On s'aperçoit, et c'est pas Kevin Bossuet a ramé à contre-courant pendant très longtemps, il fait partie de ceux-là, minoritaires. Mais qu'est-ce que aujourd'hui nous voulons dire qui est, au fond, notre fierté d'être Français dans la diversité ? Il faut, je veux dire par là que les actes, ils vont venir, vite, il était temps, tout ce qu'on veut, etc. Mais ne passons pas trop vite sur la question de savoir, ça veut dire quoi la laïcité ? Ça veut dire quoi la République ? Ça veut dire quoi ce sur quoi nous ne transigerons jamais ? Je dirais, pour que tous les auditeurs soient d'accord, nous ne transigerons plus jamais. Bon, et on s'aperçoit... C'est important parce que le vécu de... Je prends parce qu'il est mon voisin Kevin, ici, il est votre invité. Le vécu de Kevin Bossuet, beaucoup d'autres pourraient, chacun à leur façon, le tenir à leur tour. Mais c'est quelque part effrayant. Ça ne fait que confirmer spectaculairement, ostensiblement, qu'il y a eu une désintégration de ce qui faisait notre...
La question est pourquoi, comment on en est arrivé là. Et comment surtout on va en sortir, ou comment est-ce qu'on va régler les choses ? Peut-être Romain Colas.
Comment on va régler les choses, Valérie ?
On voit bien qu'à travers ce que Kevin Bossuet et pas que lui, et le rapport Aubin, c'est qu'on a mis encore une fois la poussière sous le tapis, qu'on n'a pas voulu voir les choses, qu'on a accepté un certain nombre de petites lâchetés, de petites compromissions.
Ça commence par les refuser. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos sur les cantines scolaires. Voilà, si le gouvernement voulait poser un certain nombre d'actes, il irait demander des comptes à ses élus qui progressivement ont versé dans une forme de communautarisme.
Mais il n'y a pas, il n'y a pas que ça. Ça fait 20 ans que je fais des émissions politiques et tout. J'ai entendu, moi, des chefs d'entreprise me dire qu'ils étaient démunis face à des demandes de salles de prière, que personne n'ose dire non, qu'ils se retrouvent avec la halle à l'époque, qu'il y a des incisions, des poussées qui sont là pour grignoter sur la laïcité, sur la République, et que la réponse en face, elle n'a jamais été là.
Mais ça veut dire, et moi je rejoins parfaitement ce que disait Dominique de Montvalon à l'instant, ça veut dire à un moment poser les limites de la République, poser les interdits, tout en faisant preuve, je le dis, et ce n'est pas de l'angélisme ou du relativisme de ma part, mais tout en faisant preuve d'un esprit républicain qui est nécessairement un esprit de nuance. C'est pour ça que je ne m'inscris pas dans les propos de Darmanin
Est-ce qu'on peut être dans la nuance aujourd'hui ?
On doit être dans une intransigeance absolue vis-à-vis de ce qui n'est pas possible, de ce qui n'est pas autorisé en République. Et nous avons ce travail commun républicain à réaliser pour fixer ces limites. Là, je rejoins parfaitement Dominique. Mais encore une fois, je pense que si nous versions dans une forme de radicalisation de nos propres propos, vous comprenez bien qu'il doit y avoir une intransigeance républicaine et un nécessaire esprit de nuance dans la façon dont on s'exprime. Parce que sinon, de toute façon, on va faire le jeu de celles et ceux qui veulent que nous rentrions dans une confrontation. Ce que je veux vous dire, pour être très concret, c'est toute la laïcité, rien que la laïcité, avec une vision très exigeante de la laïcité. Quand je parle de faire preuve d'esprit de nuance, j'en reviens au propos de François Fillon. Voilà.
François Fillon demande à ce qu'on interdise le voile dans l'espace républicain.
Le voile dans l'espace public, ça n'a strictement aucun sens. Et ça n'est pas l'application de la laïcité à la française. Parce que la laïcité française, c'est la capacité, la neutralité des pouvoirs publics, la neutralité absolue, la neutralité à l'école. C'est le fait de croire ou de ne pas croire, mais c'est la capacité pour un individu, pour chacun des individus, de croire, de ne pas croire et d'exprimer ses croyances dans les limites posées par la loi.
Pourquoi tolère-t-on les sorties, les accompagnantes voilées ?
Pour vous dire les choses très franchement sur ce sujet précis, j'ai pas d'opinion arrêtée. Est-ce qu'il faut empêcher la mère d'un gamin ? Enfin, je me souviens d'ailleurs, qu'on a eu un débat chez vous il y a quelque temps sur, vous savez, cette étudiante cette représentante de l'UNEF qui est arrivée voilée devant une commission de l'Assemblée nationale et une députée, Anne-Christine Lang, de mémoire, qui s'en était émue. Là, c'est faire preuve d'esprit de nuance, enfin, je crois, ce que je vais vous dire. Il y a la mère, Latifa, j'ai oublié son nom et je vous prie de m'en excuser. La mère d'un de ces soldats qui avait été tué par Mohamed Merah.
Latifa, oui.
Voilà, Latifa, c'est son prénom, j'ai peur de m'écorcher son nom. Voilà. Elle a été auditionnée à plusieurs reprises devant le Parlement, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Cette femme porte le voile. Elle porte le voile. Est-ce que vous considérez que c'est une...
Romain, c'est pas le même voile.
Est-ce qu'il aurait fallu l'empêcher? Mais comment vous faites le tri? Est-ce qu'il aurait... C'est ça la nuance. C'est ça la nuance, c'est de combattre avec une énorme fermeté l'islam politique.
Mais
c'est
d'être capable de... Je pense que la présidente de l'UNEF est une porte-parole de l'islam politique, ça n'a rien à voir.
Et c'est de considérer...
On se souvient ce qu'était l'UNEF.
Et elle a été auditionnée en commission.
En fait, on n'a pas le droit de faire preuve de nuance.
Preuve de nuance, mais enfin on est c'est pas ça, c'est que je pense qu'elle est allée à l'Assemblée nationale dans un contexte très particulier et que là encore une fois j'en parlais avec un député, la commission qui a entendu la présidente de l'UNEF pouvait interdire à cette femme de venir à l'Assemblée, c'est-à-dire que ça il y a des nuances, effectivement vous avez raison quand vous dites nuance, mais je sais pas.
Écoutez, moi je suis fatigué de tous ces petits discours de politiciens qui ne rencontrent pas la réalité des choses. De quoi on parle? Il y a un enseignant, un professeur d'histoire-géographie.
Il est
un professeur d'histoire-géographie qui a été décapité à quelques mètres de son collège parce qu'il a fait, il a fait sa mission. Il a montré des caricatures de Charlie Hebdo pour enclencher quelque chose sur la liberté d'expression. En 2015, il y a eu tout un débat autour notamment de la minute de silence de Charlie Hebdo parce que dans certains établissements, on n'a pas pu la faire respecter. On entendait déjà les mêmes qui nous racontaient « Mais oui, rien ne passera, c'est la dernière fois qu'on verra ça. » Et 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Un enseignant se faire décapiter. Donc moi, ces beaux discours, je commence vraiment à en avoir marre. Cette personne n'est pas sur le terrain, n'est pas dans une salle de classe où elle doit essuyer notamment des propos antisémites, des propos francophobes, des propos homophobes en continu. Et à chaque fois qu'on signale ce genre de choses, il n'y a jamais rien. Donc moi, à chaque fois que j'ai dénoncé cela, on me traitait d'islamophobe. Mais c'est quoi l'islamophobe en fait? C'est simplement l'islamophobie, c'est lutter contre l'islam politique. Il ne s'agit évidemment pas de s'en prendre aux musulmans. Moi, j'ai plein d'élèves musulmans, j'adore mes élèves, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de débat, ces gens qui reculent, c'est eux qui payent le prix fort. Parce que la stigmatisation, en fait, la vérité, c'est tous ces gens de gauche qui refusent de condamner explicitement l'islam politique qui crachent, en fait, sur ce que sont ces gamins. Donc, à un moment donné, il faut être clair. Il faut, par exemple, comme le veut la députée LR Annie Genevard, c'est créer un délit d'enseignement. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas enseigner ce que la République doit enseigner dans toutes les classes de France.
Et bien justement, on va l'écouter.
Je peux être parfaitement d'accord avec Kevin Bossuet, mais je ne vous laisserai pas dire que je fais preuve de la moindre compromission à l'égard de l'islam politique parce que toute mon histoire
est... Votre discours est faible, monsieur, face à la situation.
Alors écoutez, on va écouter... On va écouter Annie Genevard qui était ce matin sur Sud Radio.
Il faut vraiment protéger les professeurs davantage. Et puis, il faut... Nous proposons la création d'un délit d'entrave à l'enseignement. Des élèves et des parents d'élèves veulent empêcher l'éducation nationale d'instruire correctement leurs enfants, eh bien, il faut qu'ils sachent que la loi leur en demandera justice.
Enfin, oui, enfin, je veux bien, mais enfin, commençons déjà par appliquer la loi. Et est-ce que vous avez besoin d'une loi pour faire preuve de fermeté? Enfin, c'est encore un machin, non? Enfin, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Mais est-ce qu'on a besoin d'un machin pour un principal?
Je suis pas sûr qu'il faille amplifier les instruments juridiques.
Mais qu'on commence par appliquer la loi.
Législatif, non, mais absolument.
Ça m'énerve.
Mais bon,
enfin,
après,
on va créer une loi supplémentaire.
Peut-être vous mettre d'accord tous les deux.
Geneviève Göttinger.
Une véritable intransigeance sur nos valeurs, une intransigeance totale, rappeler ce qu'est la laïcité.
Mais c'est des mots,
la religion,
tout ça,
c'est pas que des mots, mais
bien sûr
à
que
côté
si.
De ça, il faut arriver à reconquérir toute une frange de la population sur ces valeurs. Parce que si on n'arrive pas à les reconquérir, notre combat est perdu.
Mais ils ne veulent pas.
Ben, non, mais ils ne veulent pas. Et alors vous faites quoi? Vous les tuez?
Non, mais pas du tout.
Non, mais attendez,
non, mais il faut être intransigeant.
Reconquérir.
Non, mais concrètement.
Expliquer que c'est aussi leur intérêt, que la République est protectrice, que la laïcité est protectrice envers chacun d'entre nous.
Ils entendent ça, ils rigolent. Hein. Non, mais je veux dire, il faut concrètement. Non, mais concrètement, comment ça se passe? Si vous voulez, dans une salle de classe, vous avez des parents musulmans qui sont formidables, vous avez des élèves musulmans qui sont formidables, qui ne veulent qu'une chose, c'est que leurs parents, leurs enfants réussissent et que eux réussissent également. En fait, la majorité sont déjà dans la République, c'est ça qu'il
Bien
faut
sûr,
dire.
Ouais, ouais.
Et ce qu'il faut dire aussi, il faut s'en prendre à ces quelques brebis galeuses, en effet, qui ne sont pas dans la République. Le problème, c'est que par peur d'être traité d'islamophobe ou par peur d'avoir des répercussions pour sa vie personnelle ou pour sa carrière, on n'ose plus dire les choses. Il y a des enseignants qui sont face à leurs élèves, qui subissent la pression de certains de leurs élèves. Il n'y a absolument rien. La hiérarchie ne dit rien parce qu'elle ne veut pas faire de vagues. Et l'institution non plus, parce qu'on met tout ça sous le tapis pour montrer que tout se passe bien. Alors que ça ne se passe pas bien partout, malheureusement.
Que tout le monde soit merveilleux quand vous avez cette enquête qui dit que 75% des jeunes musulmans de moins de 25 ans mettent la charia au-dessus et la loi islamique au-dessus de la loi de la République. Il y a un travail de reconquête, en fait. C'est autour de nos valeurs. C'est pas
comment,
juste dire c'est des brebis galeuses.
Alors comment 75%. Comment on fait?
Mais attendez, il faut expliquer. Il y a une action de pédagogie. Non, mais attends, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites, Valérie?
Pédagogie, oui, je veux bien, mais pédagogie, ça fait. On a eu le Bataclan, on a eu Charlie Hebdo, on a eu la promenade des Anglais à Nice, on a eu un chef d'entreprise
décapité. Non, mais d'un côté, vous réprimez, et de l'autre côté, vous essayez de reconquérir. Et vous réprimez tous ceux qui défendent l'islam politique.
Sauf que l'islam politique, il est protéiforme et qu'il arrive, encore une fois, lisez le livre de Jamila Benhabib, il arrive par la société pour arriver en politique, il arrive par toutes ces petites compromissions, par toutes ces petites entailles à la laïcité qui font qu'à un moment, il y a une sorte de prosélytisme qui se fait et qui fait qu'aujourd'hui, on en est dans cet état-là. Mais je n'ai pas la solution non plus.
Oui, non, mais je suis d'accord, il faut être aujourd'hui dans l'action. Je veux dire, à partir du moment où il y a une mosquée qui ne prend pas clairement position contre le meurtre de Samuel Paty, mais il faut la fermer. Quand vous avez une association qui ne prend pas position contre cela, il faut la fermer aussi.
Sauf qu'attendons de voir ce qui va se passer. La fermer, il va y avoir des recours. Il y a des juges qui décident. Les 231 fichés S, ils vont faire appel.
Vous ne pouvez pas
les expulser, Geneviève. On avait Patrick Mignon qui nous expliquait qu'ils attaquent les commandants de bord parfois, qu'ils acceptent de les expulser dans leur pays. Ils refusent de faire les tests de PCR.
Valérie, en même temps, vous dites qu'il faut être extrêmement ferme, mais en même temps, vous dites qu'on ne peut rien faire.
Je pense que c'est très compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Romain, Colas.
Pour vous dire les choses très franchement, on est parti un peu dans tous les sens. Je pense que de toute façon, c'est l'affaire à minima d'une ou deux générations, que tout ça va prendre énormément de temps. En revanche, ce que je crois profondément, je vous donne un exemple précis, mais ça résout pas tout. J'évoquais tout à l'heure ces quartiers, ces territoires dans lesquels il y a une absence totale de mixité. On veut créer le communautarisme, on veut créer le repli communautaire. Ça ne m'excuse pas, mais ça peut l'expliquer. On procède ainsi. Et quand on fait reculer dans ces quartiers toutes les expressions républicaines, je vais vous donner un exemple concret. C'est Emmanuel Macron et sa majorité, ont supprimé massivement au début du quinquennat un certain nombre d'emplois aidés. Et d'ailleurs, ils y reviennent désormais parce qu'ils s'aperçoivent des dégâts et parce que c'est utile en période de crise. Ces emplois aidés bénéficiaient à un certain nombre d'acteurs associatifs dans un certain nombre de territoires que je connais bien de l'Essonne. Ce que vous disent les praticiens de la politique de la ville que je connais, avec lesquels j'échange, c'est que partout où on a fait reculer les acteurs associatifs qui portaient un message républicain, qui accompagnaient les populations sur des trucs aussi bêtes que l'aide aux devoirs, vous voyez, c'est les barbus qui ont pris la place. Et donc, dans ce qu'évoque Geneviève de reconquête républicaine, c'est comment nous allons remettre, par l'intermédiaire du service public de proximité, par l'intermédiaire d'acteurs associatifs qui s'inscrivent dans un projet républicain, comment nous allons remettre de la République concrète dans un certain nombre de territoires, et ça passe pas uniquement par la réponse policière, de la République concrète dans un certain nombre de territoires dans lesquels les barbus prennent le pouvoir parce que la République a reculé. Et la suppression d'une association qui fait de l'aide aux devoirs en portant les valeurs de la République, c'est un petit recul pour la République et c'est un boulevard déroulé aux islamistes radicaux. Ouais. C'est pour ça que c'est ça que j'évoque quand je parle d'esprit de nuance. C'est à un moment d'aller essayer de regarder dans le détail qui déroule le tapis rouge au-delà de ce qui peut relever du symbolique, qui déroule le tapis rouge aux islamistes.
Voilà. Alors on a un auditeur, je vous donne la parole, Kevin Bossuet, après. On a Alexandre. Ah, Alexandre vient de partir. Alors allez-y, Kevin. Pardon, oui, moi, Alexandre, je suis d'accord. Depuis un moment.
Oui, je suis d'accord avec Romain Colas, mais il y a une chose qu'il a dit qui est complètement faux, c'est le fait que dans plusieurs générations, le problème devait être réglé. C'est faux, parce qu'on remarque en effet que les plus jeunes sont les plus radicaux. Quand on prend le fameux sondage que vous citiez, Geneviève, on se rend compte que 60% des musulmans français considèrent que la loi coranique est supérieure à la loi de la République, et quand on s'intéresse aux jeunes de moins de 25 ans, ils sont 74%. La vérité, c'est qu'il y a une réislamisation, notamment par la jeunesse. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Alors pour le reste, je suis parfaitement d'accord avec vous, sauf sur une chose quand même, il faut arrêter avec cette excuse sociale, cette politique de la ville. Ça fait des années qu'on met de l'argent dans la politique de la ville. Avec quelles conséquences? Moi j'aimerais bien...
Vous ne pouvez pas vous empêcher de caricaturer les propos...
Mais je caricature pas, je fais que rebondir sur ce que vous racontez. Vous racontez des choses fausses.
J'ai même pris, parce que je vous connais un peu, j'ai même pris la précaution oratoire de dire que ça n'excusait pas le communautarisme, mais qu'il y a des causes qu'il fallait savoir analyser. C'est ça l'esprit de nuance dont vous êtes décidément incapable de faire preuve.
Mais quand vous dites que de génération en génération, dans deux générations, le problème s'est réglé, là, vous êtes d'accord que c'est faux?
J'ai dit que ce serait l'affaire d'une ou deux générations, justement.
Mais moi, je ne suis pas d'accord, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain.
Plutôt que de penser à ma place.
Après, moi, je comprends que vous défendiez votre petit corpus électoral, mais quand même...
On ne va pas rentrer dans le débat politique. On ne va pas rentrer dans le débat politique.
Oui, je suis sur le terrain, contrairement à vous, apparemment.
De quel corpus vous parlez?
Allez, on va pas faire de l'affrontement politique ici, Dominique de Montvallon.
J'ajoute juste une chose en ce qui me concerne, c'est que il faut que cette guerre, puisque le mot a été prononcé, à mon avis à juste titre, cette guerre contre l'islam politique, évidemment pas contre les musulmans, il faut que cette guerre soit gagnée. Et parmi les conditions absolument nécessaires, c'est dans leur diversité l'unité de tous les républicains qui sont attachés à défendre la République, à la réinstaller comme le pivot de notre vie en commun. Et je dis cela, j'y ai participé, nous sommes restés dans la courtoisie, mais nous témoignons à notre façon qu'il peut y avoir dans la phase actuelle des différences d'approche en fonction du vécu de chacun, en fonction de la sensibilité politique ou autre des uns et des autres. Mais n'oublions pas, quelque part, que nous sommes sous le regard des islamistes qui attendent leur moment. Cet après-midi, il va y avoir à la Sorbonne l'hommage national à la Sorbonne. C'est génial, c'est bien. À Samuel Paty. Mais après, après, il y aura la suite. J'insiste sur le fait que exprimer chacun, j'y participe, ici et ailleurs, ici c'est courtois, ailleurs c'est pas, ça l'est moins, parfois. Exprimer notre différence, notre sens, notre approche, etc. Enfin, je vais pas reprendre les distinguos. C'est important, mais à condition de savoir faire bloc. Parce que sinon, cette guerre, on va la perdre. Hein. Ouais. C'est quand même, le mot guerre ne me paraît pas inadéquat, hélas.
Xavier nous dit que ce soir également, les caricatures seront projetées aux deux hôtels de région Occitanie, à Toulouse et à Montpellier. Donc là aussi, ce sont des symboles, évidemment. Il nous dit également que le couic à côté de chez lui est passé à l'âle et il lui a demandé pourquoi. Le gérant lui a répondu que le dimanche d'avant, 1 500 € de recette et aujourd'hui 5 000. Donc il y a une demande aussi forte pour des produits halal, évidemment. Beaucoup de réactions sur les réseaux. On revient dans un instant avec vous, 0826 300 300, et pardon pour les auditeurs qui appellent et que je n'ai pas le temps de prendre, parce que, enfin, en tout cas que je n'arrive pas à prendre, parce que c'est parfois difficile de vous interrompre. Voilà, à tout de suite sur
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Je voulais qu'on revienne sur hier les propos de Marlène Schiappa qui s'exprimait à propos des sorties scolaires et sur la réaction de François Fillon. Écoutez ce que disait Marlène Schiappa.
Sur la question du voile dans les sorties scolaires, eh bien, vous connaissez la position du gouvernement. Nous ne sommes pas favorables à interdire le port du voile pendant les sorties scolaires. Le Conseil d'État s'est d'ailleurs déjà prononcé et le vade-mecum du ministère de l'Éducation nationale est limpide sur ce sujet. quand on collabore et que donc on représente l'État, il y a une obligation de neutralité et donc de port de aucun signe extérieur religieux. Mais quand on vient en tant que parent d'élève, on peut venir. C'est la garantie de la loi de 1905, c'est la liberté de conscience, la liberté de culte et la liberté d'exercer pleinement sa religion dès lors qu'on n'attente pas aux valeurs de la République.
Voilà, François Fillon, lui, s'est prononcé pour le bannissement du voile de tout l'espace public, pas dans la rue, dans les établissements. Alors, pas de voile dans la rue, dans les établissements scolaires, universitaires, lors des sorties scolaires. Et il dénonce à nouveau le totalitarisme islamique. C'est une interview qui est à lire dans l'Express. C'est une parenthèse, mais c'est vrai que tous ces hommes politiques qui n'ont quand même rien fait depuis 30 ans et qui se permettent aujourd'hui de donner des conseils ou des avis, ça me fait bien rigoler. On rappelle que Nicolas Sarkozy est à la base de la création du CCIF. Hein.
Oui.
Oui. Bon. Dominique.
Restons deux secondes sur Fillon.
Oui.
Donc, point 1, il réapparaît. Tiens. Il réapparaît sur la scène politique. Tiens. Point 2, quand il dénonce je reprends votre citation, le totalitarisme islamique, donc il s'inscrit dans le mainstream de son parti, et heureusement bien au-delà de tous les Républicains aujourd'hui, donc ça n'a rien d'original. Ensuite, il veut supprimer l'autorisation pour des femmes de porter des voiles, etc., dans l'espace public. Je vois là, chez François Fillon, que nous avons appris, que j'ai suivi comme journaliste pendant des années, avec des hauts et des bas, et que j'ai regardé, en tout cas maintenant, il ne me surprend plus. Je vois sa propension. Je dis ça parce que je suis très restrictif par rapport à ça, à radicaliser tous les propos. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça n'a apparemment rien à voir. Quand il s'agit de dire que l'État est obèse, il propose de supprimer, excusez-moi du peu, on n'aura jamais vu ça à l'œuvre, 500 000 fonctionnaires. Mmh. Ok, d'accord. Bon, et maintenant, on supprime le voile pour toutes les femmes. Quand vous allez, vous voyez des femmes de 50 ans, 60 ans, des grands-mères de 70 ans. Attendez. Je répète, moi j'ai envie que la guerre contre l'islamisme radical et totalitaire soit gagnée. Et je n'ai pas l'impression que de surenchère en surenchère, chacun intervenant pour en rajouter et se singulariser, on en prenne le chemin. Mmh. On va se diviser. On peut au moins échelonner les combats. Les mères de famille ou les grands-mères qui accompagnent leurs enfants, si elles sont voilées, écoutez, merde, moi je m'en fous.
Alors,
c'est pas le problème.
Juste une chose, je me suis trompée, j'ai dit CCIF, évidemment, c'est le CFCM qui avait autorisé Nicolas Sarkozy. Pardon, Kevin, sur le voile.
Sur le voile, alors, évidemment que le voile, c'est un instrument identitaire au service de l'islam politique, c'est la réalité. Mais après, concrètement, évidemment qu'on ne va pas interdire le voile. Enfin, à un moment, il faut aussi respecter ces musulmanes hein, qui portent le voile parce que ça correspond à leur identité, correspond notamment à leurs croyances. Et moi, qui suis enseignant, ça ne me gêne pas d'avoir en face de moi une maman voilée ou que lors d'une sortie scolaire, maman voilée m'accompagne. C'est pas renoncer, si vous voulez. C'est tout simplement inclure ces femmes dans la République.
Est-ce que de s'inclure, c'est de mettre un voile ? Vous êtes jeune, Kevin, ça fait combien de temps que vous enseignez ?
7 ans.
7 ans. Bon, il y a 20 ans, est-ce qu'il y avait des mamans voilées ?
C'est pas lui que vous devez le demander. Je vous réponds non.
Il n'y en avait pas. Donc,
ou pratiquement pas.
Donc, est-ce que l'islam a changé en 20 ans ?
Monde, à tout point de vue, y compris médiatique, est le même que celui d'il y a 20 ans ou 40 ans ?
On parle pas de la même chose. Si on parle d'islam politique, on parle de je reviens à ce que je disais, de ces petites entailles, de ces petites poussées pour entrer dans la société.
Je ne pense pas.
Non,
je suis totalement d'accord avec votre analyse.
Je pense que Romain ne sera pas d'accord, mais sur le voile et sur le voile qui est...
Je suis d'accord avec Kevin Bossuet.
Comme quoi tout arrive.
Je m'inscris dans ce que disait Dominique tout à l'heure. On a le droit avec Kevin d'avoir des nuances d'appréciation, enfin très franchement. Et c'est pas un drame. Mais ce que disait Dominique est important. Il est des combats qui sont de nature fondamentale et qui doivent nécessairement transcender les clivages politiques. Voilà. Ce qu'évoquait Dominique, ce combat contre l'islamisme radical, contre l'islam politique, est un combat qui doit fédérer les républicains de tous bords. Nous aurons des débats entre nous sur les solutions et sur les réponses à apporter, selon nos sensibilités. Soyons en capacité d'avoir ces débats dans une relative sérénité, sans anathème, parce que en face de nous, effectivement, l'adversaire nous attend au tournant. Voilà.
Mais vous répondez pas à la question. Quand on voit, et Kevin évoquait tout à l'heure la sociologue Florence Bergeau-Blaquer, qui expliquait, qui est spécialisée sur le halal et qui s'est rendu compte en faisant des études sociologiques sur le halal, qu'en fait, aujourd'hui, l'islam politique, il arrive par les femmes. Il arrive par les femmes. Elles sont là pour faire du prosélytisme aussi. Alors, peut-être à l'insu de leur plein gré, comme on dit, mais le voile n'est pas un chiffon, n'est pas quelque chose d'anodin. On voit qu'il y a des femmes qui sont tuées dans certains pays parce qu'elles ne portent pas le voile. Donc, on ne peut pas dire en France que ce n'est pas grave et que c'est grave dans d'autres pays. Je sais pas.
Le voile, c'est vraiment une visibilité. C'est quand même la volonté aussi d'imposer une visibilité maximale dans l'espace public et une occupation de l'espace public avec le voile. Après, maintenant, je pense effectivement, moi, comme Dominique, qu'on peut pas mener tous les combats à la fois et que le combat du voile dans l'espace public, d'abord, ça n'a rien de contraire avec la laïcité telle qu'on conçoit, loi de 1905. Aujourd'hui, il faut vraiment toute la loi de 1905, mais peut-être seulement la loi de 1905, et pas aller au-delà de la loi de 1905. Sans ça, on va perdre cette guerre-là. Donc voilà. Et après, il ne faut pas la perdre. Et on ne peut pas la perdre. Oui. Et on ne peut pas la perdre. Parce que si on la perd, on n'est plus la France.
On n'est plus la République française.
Alors. Donc, et après, effectivement, vous citiez tout à l'heure Romain, Fatima Ziaten. Le voile, pour elle, ça ne signifie pas la même chose que pour la présidente de l'UNEF, par exemple.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je m'inscris, et je crois qu'on est tous les quatre d'accord sur les propos de Fillon, qui représentent une forme de radicalité qui est contraire à la lettre même de la loi de 1905. La radicalisation en matière de lutte contre l'islam politique, une forme de radicalisation du discours public des républicains qui sont censés être des gens responsables, participent d'une logique d'affrontement que veulent nous imposer les islamistes. Voilà, non, et nous ne versons pas. Quand je fais appel à l'esprit de nuance, c'est simplement cela. Je ne veux pas tomber dans leur piège. Je ne veux pas que certains de nos concitoyens musulmans aujourd'hui, qui sont de parfaits républicains, parce qu'ils auraient le sentiment qu'une confrontation s'organise contre eux, basculent dans l'islam politique. Voilà, ne soyons pas les alliés objectifs des salopards terroristes.
Alors, on a un appel, on a Ludovic en ligne avec nous. Bonjour Ludovic.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous nous appelez de Rochefort.
Bonjour. Oui, alors actuellement je suis sur Vendagen et j'habite à Rochefort et je suis enseignant vacataire aussi en université à La Rochelle.
Oui, qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Voilà. Donc je rejoins totalement Kevin Bossuet sur ses propos tout à l'heure sur en fait l'abandon ou la lâcheté de la République et notamment au niveau de l'enseignement. Nous avons perdu notamment des heures de français, de langue française. Le français n'est pas qu'un simple outil de communication, c'est également un vecteur social très très important, un vecteur de cohésion, un vecteur aussi d'amour pour la France. On a perdu des heures d'histoire également, d'histoire de France, pour enseigner d'autres un peu plus une histoire, je vais pas dire de repentance, mais tout comme. Je pense que voilà, peut-être par clientélisme électoral. Nos politiques ont abandonné certaines fermetés, un certain respect de ce qu'est la République, de ce qu'est notre cadre républicain, ce que sont nos lois également, ce qui a favorisé l'expansion de l'islamisme.
Mais vous y êtes confronté, vous, Ludovic ? Vous avez été confronté à agir ou à avoir des situations dans lesquelles vous étiez confronté à cette montée de l'islam politique ?
Oui, j'en ai eu beaucoup. Enfin, j'en ai même au quotidien. En université, j'ai déjà eu des étudiantes qui portaient un voile. Bon, certes discret, mais qui portaient un voile. Mais on m'a dit bon de laisser faire.
La loi les y autorise. Mais dans les programmes, dans ce que vous enseignez.
En université, non, parce que j'interviens au niveau informatique, mais j'avoue qu'il arrive parfois que j'ai des problèmes pour me faire comprendre avec certains élèves en provenance d'étrangers. Par contre, j'ai un collègue qui est au travail qui est musulman, mais c'est peut-être un des points que je tiens à souligner, c'est qu'il est assimilé. Voilà, il a subi une éducation, il adorait même faire les fêtes de Noël en école quand il était jeune, ce qui ne se fait plus maintenant. il aime bien, il parle français, il aime parler français. Et donc, il y a eu un recul d'éducation, il y a eu, je pense, également un recul, d'éducation parentale, déjà, mais aussi un recul de l'instruction publique, parce qu'il faut faire la différence. Et c'est, et c'est un ensemble qui a amené à ce point à ce point-là qu'il faut absolument combattre.
Merci. Je suis obligée de vous couper, Ludovic, parce que c'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir appelés. Puis écoutez, vous êtes, c'est pas très facile de donner un cadeau, mais vous êtes le gagnant d'une Ice Watch, l'Ice Solar Power, que Sud Radio vous offre tout au long de la semaine. Ce sont des montres à l'occasion du changement d'heure qui se rechargent de manière solaire. Voilà, transition compliquée, mais c'est comme ça, c'est tombé sur c'est vous. Merci de nous avoir appelés, Ludovic. Merci à tous les quatre pour ce débat tout à fait intéressant. Et on se retrouve demain. Bonne journée sur Sud Radio.